Session théologique par le Père Philippe à Saint-Jodard le 11 août 1988.
Petite question. Satan, Lucifer, d'où vient-il? Qui est-il? Et depuis quand? Alors, je vous ai renvoyé, n'est-ce pas, à ce texte extraordinaire, comme toute l'Apocalypse. Hein. Je vous donne envie de la lire, comme ça. Donc, il y a des grands mystères dans l'Apocalypse. Je voulais le lire. Parce que c'est très net, il y a un lien entre les deux. Un lien voulu par l'Esprit Saint. Donc la question est ceci. La Genèse n'en parle pas. Est-ce aussi pour cela que Dieu hésite avant la création de la femme? T'as-tu peur? C'est possible, il y a peut-être une espèce d'inquiétude. Est-ce qu'on va envoyer le pavé, le rugissement du dragon immédiatement, dès que la femme apparaît, le rugissement. Vous voyez, il y a le Magnificat de l'homme et le rugissement de Satan. Oui, vous voyez, un cinéma pour montrer la création de la femme. Et vous montreriez ça, parce que c'est tout à fait... Il y a le Magnificat de l'homme, os de mes os, chair de ma chair, et le dragon rouge feu. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges faisaient la guerre au dragon. Et le dragon fit la guerre, ainsi que ses anges. Et ils n'eurent pas le dessus. Et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Il fut jeté, le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable, et le Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Vous voyez, c'est très beau d'éclairer ce duel, Ève, le serpent, de l'éclairer par une lutte antérieure qui eut lieu entre Michael et puis le dragon, le serpent antique, Satan, l'adversaire. Alors, comment on arrive à ça? C'est très vrai que l'Écriture ne parle pas, de Lucifer, on ne s'identifie pas. Mais à travers toute l'Écriture, il y a quand même cette affirmation de l'ange qui s'est révolté. Vous voyez, je voudrais faire une session théologique sur Lucifer. Ça vaudrait la peine aujourd'hui. Parce que c'est quand même très important. Savoir exactement qui est Lucifer, le démasquer, ce qui se cache toujours. Il est arrivé à se cacher des théologiens. Alors là, il se frotte les mains. Il est arrivé tellement, il se cache bien. Alors c'est toute la tradition. Hein. Chez les pères de l'Église, ce point de vue d'un ange qui s'est révolté contre. Est-ce que c'est le premier? Non, ce n'est pas les séraphins et les chérubins. Mais sûrement que Lucifer a une place importante parmi les anges. Ce n'est pas le dernier. Et derrière lui, ça a continué de se révolter. Et c'est une révolte contre Dieu qui annonce qu'il va réaliser son chef-d'œuvre à partir de notre univers physique et un esprit. C'est pas dit explicitement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inimitié entre Lucifer, entre le serpent et la femme. Il faut expliquer le pourquoi de cette inimitié. Et là, je fais appel à la psychologie de l'orgueilleux. Un orgueilleux n'accepte pas que quelqu'un passe avant lui. Ça, nous comprenons ça très bien. Parce que nous avons tous en nous quelque chose de commun, un fond de psychologie orgueilleuse. Il n'y a que Marie qui ne l'a pas. Mais nous tous nous l'avons. Notre péché dominant, c'est l'orgueil. Ça, c'est sûr. Alors, quand je dis, vous voyez, puisque c'est la seconde question, et je comprends très bien, la psychologie est fondée sur l'orgueil. Fondée sur l'orgueil. D'une certaine manière, c'est très vrai, la psychologie prend une importance énorme à cause de l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que la psychologie, comparativement à la philosophie? La philosophie étudie les passions. C'est en regardant les passions qu'on comprend le mieux. On analyse ce que c'est que les passions. On voit que dans les passions, il y a en nous le concupiscible et l'irascible. Le concupiscible, c'est ce qui nous porte vers le bien sensible. La confiture du matin. Le chocolat. Pour d'autres, le champagne. Pour d'autres, l'alcool. Oui, concupiscible. Le bien sensible. On est porté vers le bien sensible. Bon, les passions. Le philosophe les analyse en cherchant quel est l'objet propre des passions. Le psychologue regarde le comportement passionnel de l'homme, la manière dont il réagit. Il n'analyse pas par l'objet, il regarde le conditionnement, l'exercice, toujours. Or, l'orgueil met en nous un primat du conditionnement. Je vous ai dit le repliement sur soi. Donc un primat du conditionnement. L'orgueilleux n'est pas objectif. C'est bien évident. Il peut être sincère, mais il n'est pas objectif. Peut-être une sincérité orgueilleuse. Je suis le seul à voir clair dans ce problème. Et les autres ne voient rien. Et on projette sur les autres notre propre conditionnement. C'est pour ça que c'est souvent un dialogue de sourds. Très difficile, c'est pas la peine de discuter quand on est en face d'un orgueilleux. Dès qu'on a dépisté l'orgueil, c'est pas la peine. On ne discute pas. Faites vos expériences. On se retrouvera dans 30 ans. On se retrouvera dans l'éternité. C'est pas la peine de discuter, ça ne sert à rien. Vous pouvez pas, et c'est pas un manque de charité. C'est pas un manque de miséricorde. L'orgueilleux ne demande plus conseil à personne. Donc c'est pas la peine de se mettre à discuter. Il vous considère comme rien. La seule autorité, c'est lui. C'est pas drôle du tout d'être en face d'un orgueilleux. Donc, l'orgueilleux fait. Et l'orgueilleux, c'est pas uniquement l'intelligence, c'est la volonté liée à l'état passionnel, de l'irascible et du concupiscible. c'est l'amour qu'on a de sa propre pénétration intellectuelle vis-à-vis de la réalité. Et on considère qu'on est le seul à voir clair. Alors l'orgueil est surtout lorsqu'il y a des passions politiques et religieuses. C'est à l'égard des passions religieuses et des passions politiques que l'orgueil va le plus loin. Ça, c'est net. Du côté politique, c'est la vanité qui va souvent l'emporter sur l'orgueil, et du côté religieux, c'est l'orgueil qui demeure. La faute contre l'esprit, c'est l'orgueil. Et l'orgueil tue l'amour, c'est pour ça que l'orgueil durcit. Les orgueilleux sont toujours très durs, impitoyables. C'est la formalisation de tout. Et l'orgueilleux étant se repliant sur lui-même, c'est le conditionnement. Ce n'est plus l'aspect objectif qui commande. C'est nous. Ce que nous pensons, ce que nous voyons, c'est ça l'importance. Notre projet, notre saisie des choses. Donc c'est le conditionnement, et c'est pour ça que je dis que le psychologue qui étudie le conditionnement premier, le plus absolu qui est en nous, c'est l'orgueil. Une des conséquences du péché originel, c'est de mettre l'orgueil comme l'attitude humaine dominante. Le péché d'orgueil, le refus d'aimer, le rejet de la foi. Et tout ordonné à cela. Alors là, c'est pour ça que je dis qu'au point de vue psychologique, l'orgueil, j'allais presque dire, c'est l'objet le plus merveilleux au plan psychologique. C'est beau un orgueilleux. C'est terrible, mais c'est beau. L'exaltation de l'intelligence. Il y a une certaine grandeur. C'est pour ça que ça séduit. Les orgueilleux sont chefs de file. Et ils veulent l'être. Alors là, c'est la vanité qui commence. Parce qu'ils étaient purement orgueilleux, ils seraient solitaires. Déjà, quand ils commencent à être chef de file, la vanité commence. Alors, on peut espérer que l'orgueil va diminuer à cause de la vanité. Parce que la vanité est beaucoup plus imaginative. La vanité fait appel au pouvoir, fait appel à l'efficacité. On veut les résultats, on les compte. Oui. Et alors la vanité est moins dangereuse, beaucoup moins dangereuse que l'orgueil. C'est beaucoup moins séduisant. Un gros vaniteux, ça fait rire. Regarde-toi, quoi. La grenouille, aussi gros, qui veut se gonfler aussi grosse que le bœuf. Regarde-toi quand même. Il faut une mère à ce moment-là, quand elle est devant son petit qui, vaniteux. Mon petit, quoi. D'où es-tu sorti? Moi, je le sais. Quand même, hein. Mais c'est que l'orgueil, on ne pourrait pas dire ça. L'orgueil se coupe de tout. Vous voyez, la vanité passe à un plan politique. Toujours. Soigner son image de marque, comme ça se dit dans le milieu artistique et dans le milieu intellectuel. Ça, c'est la vanité, c'est la grosse vanité. Alors, voyez, le péché d'orgueil est premier. L'orgueil de Lucifer. L'orgueil du serpent. Mais Quand l'orgueilleux tente, il regarde l'efficacité. Et donc, d'une certaine manière, il n'est plus en face d'un orgueil absolument pur. Il cherche les résultats. Et chercher les résultats, c'est gros, la vanité. C'est pas strictement l'orgueil. Mais nous pouvons découvrir la psychologie angélique, démoniaque du serpent de ce fait qu'il agit semblablement à ce qu'il est. Et l'orgueil met l'intelligence au-dessus de tout. Il faudrait développer beaucoup plus au point de vue psychologique, ce serait très intéressant. Mais réfléchissez là-dessus, c'est passionnant de découvrir, voyez, comment l'orgueil fait le primat du psychologue, le primat de la psychologie. L'orgueilleux ne peut plus accepter une philosophie réaliste. La philosophie réaliste réclame l'humilité de l'intelligence. La terre vint au service de la femme. C'est dit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 16. Et la terre vint au secours de la femme. Le réalisme. La femme poursuivie par le dragon, poursuivie par le serpent, qui veut la tirer, qui veut la séduire. Alors le réalisme. Et c'est très vrai. Mais quand on est très pris par l'orgueil, on ne sait plus avoir un jugement d'existence. On a un jugement d'existence un jour, et le lendemain, immédiatement, on dit non. Oui, ça montre bien qu'on n'a plus le réalisme. C'est ce qu'on dira les sincérités successives. Les sincérités successives montrent bien que la sincérité, ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas des vérités successives. Il y a la vérité. Tandis qu'il y a des sincérités successives. Et les sincérités successives, c'est justement un vase orgueil. C'est nous qui mesurons le réel et le mesurons différemment. Bon, je continue encore quelques instants, pas très longtemps, parce qu'il faut entrer dans la seconde partie principale de la session, quatrième jour, il faut bien. Mais pour bien entrer dans cette seconde partie, il faut regarder la manière dont Dieu punit. La punition, c'est une correction fraternelle, pleine de miséricorde, mais respectant la justice. Péché, surtout l'orgueil, est anarchique. Tout péché détruit l'ordre. La grosse concupiscence charnelle détruit l'ordre du corps. Tout de suite. Ne respecte pas les finalités propres du corps et des fonctions biologiques. La grosse vanité détruit l'ordre. On se gonfle. C'est plus vrai. Et l'orgueil détruit radicalement l'ordre, puisqu'on se met à la place du premier. Et on ordonne tout. C'est une fausse sagesse. Puisqu'il y a un désordre, conséquence du péché, Dieu, dans sa sagesse, ne peut pas accepter ses ordres. Et dans sa justice, il veut rétablir l'ordre. Et on rétablit l'ordre en punissant. La première fois dans votre vie, vous avez exercé l'autorité et vous avez puni. Rappelez-vous ça. La première fois dans votre vie. Il y a des chances que ce soit. soit déjà arrivé. Quelqu'un qui a commis une injustice par rapport à vous. Il vous a marché sur les pieds indûment. Vous avez des réactions de colère. La colère s'éveille en face de l'injustice. Et la colère veut rétablir l'ordre. On parle beaucoup des colères de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Alors, comprenons bien, c'est métaphorique. Dieu ne se met jamais en colère. Mais on emploie le mot colère pour montrer que Dieu n'est pas indifférent à l'injustice. Que la providence de Dieu maintient l'ordre. L'ordre de justice voulu par Dieu. Et Dieu n'est pas indifférent au désordre commis par le péché. Et parce que Dieu n'est pas indifférent, dans sa sagesse, Dieu veut rétablir l'ordre. Et rétablir l'ordre, c'est la conséquence de la colère. Nous avons tous dans la mémoire souvenance de certaines colères de personnes respectables qui exercent l'autorité. Si on a été pensionnaire, parce que le pensionnat est le lieu le plus merveilleux pour voir les colères. Et plus les pensionnats d'avant étaient stricts, plus les colères étaient violentes. Quand il n'y a plus aucun ordre, il n'y a plus de raison de se mettre en colère. Alors quand on donne la clé à tout le monde, vous pouvez partir quand vous voulez, rentrer quand vous voulez. Il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus de raison de se mettre en colère. Un pion qui doit surveiller. On est tout le temps dans l'ordre puisqu'il n'y a pas d'ordre. Donc tout est dans l'ordre. C'est l'anarchie établie en ordre. On donne la clé à tout le monde. On peut bavarder quand on veut. Plus aucun respect du silence. Et ainsi de suite, vous voyez. On a peut-être encore connu des lieux où il y avait encore de l'ordre. Moi, j'ai connu des lieux où il y avait de l'ordre. Je ne dis pas où, mais j'ai connu ça. Et dans ma jeunesse, j'ai connu des colères. Oh, extraordinaire. Ça reste comme si c'était actuel. C'est extraordinaire comme ça marque. On est jeune, je ne sais pas, j'avais 14 ans. Ça marque. Je ne dis pas que ce sont des saintes colères. Hein. Des colères de gens qui avaient la responsabilité de grands collèges. En venant donner les notes aux pensionnaires le soir, vous comprenez, les notes de la semaine, se faisant siffler dans des grandes salles où on était 150. Il avance au milieu, dans le fond, on siffle. Il regarde, par devant, on siffle. Il ne sait plus. Alors, il fait un bond pour se mettre devant, pour regarder tout le monde. Et tout le monde siffle pendant le bond. Puis là, un grand arrêt. C'est extraordinaire. On l'avait appelé choléra. C'est très curieux, la colère. C'est très, très intéressant. Très intéressant, la colère. Parce que plus l'autorité est grande et plus on se met en colère, plus ça fait rire. C'est très très curieux. Parce que celui qui a autorité doit garder une dignité. Et quand il se met en colère, il ne garde plus sa dignité. Une colère passionnelle. Mais ce qui est intéressant à voir, le symbolisme de la colère attribué à Dieu. En Dieu sont des saintes colères. C'est rétablir la justice. C'est pour ça que saint Thomas nous dit que la passion de colère est la plus proche de l'intelligence. C'est la plus noble. C'est pour ça que c'est les passions de ceux qui exercent l'autorité. C'est vrai, ça. Dès qu'on qu'on exerce l'autorité, qu'on prend conscience un peu de sa responsabilité, ben, les colères poussent, alors qu'avant, pas du tout. Ça, il faut comprendre, ça accompagne l'exercice de l'autorité, parce qu'on est responsable de l'ordre, de la justice. Alors, on l'attribue à Dieu, parce que Dieu ne peut pas supporter le désordre. Un désordre moral, pas le désordre de la cuisine, pas le désordre des casseroles. Non, ça, il y a une sainte indifférence de Dieu. Mais le désordre moral, c'est très très différent. Et alors, vous avez ici la première colère de Dieu. Dieu qui rétablit la justice. Il avait dit au serpent, parce que tu as fait cela. Voyez, parce que tu as fait cela, le fait, l'anarchie. Il y avait un ordre parfait dans cette petite communauté. Le démon y a mis l'anarchie, le désordre. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux. La première malédiction. Jusque-là, tout était bon. Val des bonhommes. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux. C'est extraordinaire. On compare le démon aux bestiaux. Le péché de l'ange l'a fait descendre si bas qu'il devient comparable aux animaux. C'est un langage métaphorique, hein, pas scientifique, parce que ce serait complètement absurde. Mais métaphoriquement, ça a une signification. Le contemplatif, quand il déraille, c'est comme le TGV, le contemplatif, quand il déraille, c'est terrible. Il fait des dégâts énormes. Il ne peut pas dérailler. Le contemplatif, quand il déraille, c'est un monstre d'orgueil. Ça, il faut le comprendre. Parce qu'on est sur les crêtes. Sur les chamois. Sur les sommets. Et quand ils descendent dans les vallées, oh, ils font des dégâts énormes. Parce que la contemplation augmente la capacité de l'estomac. On a soif, on a faim. Alors on mange tout. On a perdu ce qui pouvait seul nous nourrir. Alors on prend tout. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux. Et descendu plus bas. Les animaux ont l'instinct. Et l'orgueilleux descend plus bas que l'instinct. Il détruit tout. Il détruit l'intelligence. Non seulement le cœur, mais il détruit l'intelligence. Et détruire l'intelligence. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre, oh, quel est le ventre du démon? Langage symbolique. Hein? Sur ton ventre, tu marcheras. Quel symbolisme métaphorique. Le ventre. On voit très bien ce que c'est. Quand le ventre commence à... à prendre la forme d'un petit tonneau. Alors on se met à rouler. Et donc on ne peut pas marcher autrement. Vous voyez, c'est très significatif. À la place d'aller vers les hauteurs, c'est le repliement sur soi. C'est la grosse vanité. C'est la grosse vanité. Sur ton ventre, tu marcheras. Quand vous voyez un vaniteux, vous avez envie de dire « Sur ton ventre, tu marches. Et poussière, tu mangeras. Tu n'as plus l'instinct qui distingue le bon et le mal. Tu manges tout. Tous les jours de ta vie, maîtrise, c'est la destruction de la dignité. L'orgueil fait ça. Et l'orgueil actif détruit. Et je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te visera à la tête. Toute la tradition a vu là la descendance de la femme, Jésus, Marie. Celle-ci te visera à la tête. Est-ce que c'est Jésus qui écrase la tête du serpent? Est-ce que c'est Marie qui écrase la tête du serpent? Dans la recréation. Vous voyez que tout de suite, hein, et c'est ça qui est important ici, tout de suite, Jésus annonce une victoire. Le démon est victorieux. Il en est très conscient. Il vient de briser le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu, la femme, il l'a brisé. Chef-d'œuvre de Dieu, l'homme, il l'a brisé. L'escompte de vanité. Tu vois bien que j'avais raison. Chef-d'œuvre de Dieu, l'homme et la femme, première chose qu'ils font, désobéissance. Dans l'orgueil. Tes petits chouchous. Ceux que tu aimes le plus. Voilà comme ils sont reconnaissants. Ils tournent le dos. Ils se gonflent eux-mêmes. Ils voient que à la reconnaissance. Jésus annonce, Dieu annonce, Yahvé annonce la victoire. Pas de la femme, Ève, mais de la descendance. C'est très beau, ça. Et c'est très grand. Ça montre bien que le péché n'a pas détruit la bonté radicale de la nature. Autrement, cette parole de Dieu n'aurait pas de sens. Dieu ne dit pas « Je vengerai l'homme ». Pas du tout. C'est la femme elle-même qui est choisie, et la descendance de la femme. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme. La guerre commence. Il n'y a plus de paix sur la terre. Depuis le premier péché, il n'y a plus de paix sur la terre. La guerre a pénétré. La conséquence de l'orgueil, c'est la guerre, toujours. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre eux. Ta descendance et sa descendance. Celle-ci, alors voilà le résultat de la guerre, te brisera à la tête l'orgueil. La culpabilité du démon, c'est l'orgueil. Eh bien, c'est la descendance de la femme. La plus grande humiliation pour le démon. La plus grande humiliation. Alors vous comprenez ? Apocalypse, chapitre 12. Vous comprenez ça parfaitement. Quand vous voyez les deux signes dans le ciel, la femme et le dragon. L'inimitié entre les deux. Et la femme qui enfante. Et le dragon qui veut tuer la descendance de la femme. Puisque c'est la descendance de la femme qui doit lui briser la tête. Celle-ci te brisera à la tête. Et toi, tu la viseras au talon. La femme touche la lune de ses pieds. Elle reste vulnérable. Et voyez, ceci indiquerait beaucoup plus que c'est la femme, c'est-à-dire Marie. Parce que quand il s'agit de Jésus, les démons ne peuvent rien sur lui, il est Dieu. Tandis que la femme est vulnérable, elle peut pécher. Et donc le démon la vise au talon. Vous voyez bien, viser au talon, hein, c'est dans la ruse. Il essaie par la ruse, par derrière, de l'atteindre, au talon. Symbolise du serpent, hein, qui attaque par derrière et qui veut communiquer son venin. Mais il n'a pas pu toucher Marie. De fait. Mais Marie aurait pu être atteinte. Et le démon le sait. C'est pour ça que je crois que si on est attentif au texte, je crois bien que c'est vraiment la femme, c'est-à-dire Marie. On verra ça. Posez-vous au moins la question. Hein. À la femme, il dit. Et voyez, ce qui est très beau ici, c'est que, symboliquement, on voit que les conséquences du péché ne sont pas les mêmes dans l'homme et dans la femme. La théologie spéculative à unifier, c'est très bien, parce qu'elle a cherché à comprendre ce qu'était la raison du péché. Mais une théologie mystique qui reprend le point de vue du concret doit voir que les conséquences du péché ne sont pas les mêmes chez la femme et chez l'homme. Alors regardons ça attentivement et comprenons. Je multiplierai ta peine et tes grossesses. La femme, c'est toujours celle qui doit porter la souffrance. Et c'est dans la souffrance que tu enfanteras des fils. La fécondité n'est plus une fécondité purement victorieuse. C'est une victoire dans la lutte. S'il y a souffrance, il y a lutte. Premièrement, la femme est bien plus sensible à la fécondité que l'homme, puisque c'est le lieu de la fécondité. C'est elle qui est gardienne de la fécondité. C'est elle. Et le démon le sait très bien. Eh bien, il y aura une lutte dans le cœur de la femme, gardienne de la fécondité. Et elle ne sera plus totalement gardienne à cause de la souffrance, à cause de la peine, à cause des luttes. Et voyez, c'est indiqué comme première conséquence du péché. La vulnérabilité. Conséquence du péché, la vulnérabilité la plus fondamentale qui nous est révélée ici, c'est la vulnérabilité à l'égard de la fécondité. Deuxième vulnérabilité, vers ton mari se portera ton désir. Et lui dominera sur toi. Seconde vulnérabilité, à l'égard de son amour trop passionnel vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de son mari. Vers ton mari se portera ton désir. Quelqu'un qui est assoiffé, quelqu'un qui a un grand désir, il est assoiffé. À ce moment-là, il est sans défense. Vous pouvez faire ce que vous voulez de quelqu'un qui est assoiffé. Et l'homme en profite pour dominer sur la femme. Et lui dominera sur toi. Donc, deux vulnérabilités conséquences du péché, la fécondité et l'amour. L'amour n'est plus aussi simple et elle n'est plus totalement gardienne de la fécondité à cause de la souffrance. Et l'amour, à cause du désir, c'est par le désir que l'amour va être atteint. Et ce désir va augmenter la fragilité et l'homme va en profiter pour dominer. À la place d'aimer, l'amour appelle l'amour. Et quand l'amour n'est plus totalement l'amour, et que c'est le désir qui l'emporte, à ce moment-là, le désir qui manifestera la fragilité, qui manifestera la pauvreté, qui manifestera l'impuissance, va être un lieu particulièrement vulnérable pour la domination. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme au lieu d'écouter la voix de Dieu, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Vous voyez comme Dieu punit l'homme en fonction de son autorité. Et qui n'a pas su garder cette autorité. Que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit, tu n'en mangeras pas. Donc, la faute va avoir une conséquence, la première faute va avoir une conséquence sur le point de vue de l'exercice de l'autorité chez l'homme. Il a mis un désordre. Il a fait passer devant la voix de la femme, à la place d'écouter le précepte de Dieu. Maudit soit le sol à cause de toi. Dans la peine, tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. C'est à l'égard de l'autorité et à l'égard du travail. L'homme va pâtir particulièrement à l'égard du travail. Le travail deviendra pénible, difficile, défectueux. Même le travail intellectuel, hein. Pourquoi le travail intellectuel, faire de la philosophie, devient pénible, conséquence du péché? Normalement, il ne devrait y avoir rien de plus joyeux que la recherche de la vérité. Et rien de plus grand que la recherche de la vérité. Et à cause des difficultés, on calme. Maudit soit le sol à cause de toi. Dans la peine, tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi. Alors voyez les épines et les chardons au point de vue intellectuel. Oh, très bien, c'est symbolique. Hein. Et alors, c'est un symbolisme merveilleux de voir qu'on a travaillé à la sueur de son front. Qu'est-ce qu'on récolte? À la place de récolter du blé, on récolte des chardons. Magnifique récolte. À permettre, à la place de récolter des saints, des chardons. Et des épines. Conséquence du péché originel. Un père qui éduque ses enfants, il devrait avoir des garçons et des filles merveilleuses. Il a tout donné pour ça. Et ce sont des épines et des chardons. Alors je ne sais pas si l'épine c'est le garçon et le chardon c'est la fille, ou bien l'inverse. cocktail des deux. Un cocktail pas très agréable. Ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi. Et tu mangeras l'herbe des champs. C'est la grosse salade. L'herbe des champs. Quand on vous sert de la bonne salade, l'herbe des champs vous sert ça. Conséquence du péché originel. Oui, je vais me brouter. Comme une vache. Tu mangeras l'herbe des champs. Oui, c'est le symbolisme. Faut pas l'oublier. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol. Car c'est de lui que tu as été pris. Car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Tu auras une saveur de poussière. Saveur de mort qui restera là, en toi. Voyez que l'homme est avant tout puni dans son autorité et dans son travail. Curieuse. Et la femme, c'est du côté de l'amour. C'est important de voir ça. Très important. Prenez au point de vue éducatif. Les tentations ne sont pas les mêmes pour le garçon et la fille. Quand on veut une éducation unique, bien, on va contre ce passage de l'Écriture. Il faut comprendre qu'il y a une vulnérabilité plus grande dans le cœur de la fille. Qu'il y a une tentation terrible de paresse chez le garçon. Ça, ils en portent tous les prix, là. La paresse. Et la fille est moins tentée de paresse. C'est très curieux. Vous voyez comme ce serait intéressant hein, de regarder ça, d'éclairer la psychologie horizontale d'aujourd'hui dans cette grande lumière sur l'origine de l'anarchie dans l'homme et dans la femme. Et Dieu punit comme un père qui aime. C'est une punition qui promet une victoire. C'est pas une punition pour punir. Dieu a permis le péché parce qu'il savait, au fond de sa sagesse, qu'il pourrait faire quelque chose de plus grand. Et qu'il punirait pour faire quelque chose de plus grand, pour reprendre son œuvre d'amour. Et il reprend son œuvre d'amour par ce point de vue de la punition. Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. C'est extraordinaire. Ce n'est plus os de mes os, c'est la mère des vivants. Elle reste toujours os de mes os. C'est plus ça qu'il voit en premier lieu. C'est la fécondité. Yahvé Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. C'est Yahvé qui fait ça ici. Yahvé Dieu dit, voilà que l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Psychologiquement, il a avancé. L'orgueil l'a mis dans une perspective nouvelle. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'il avance la main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il en mange et vive à jamais. Ça, c'est un petit passage très, très curieux. Je ne vais pas entrer dedans. Hein. On n'a pas lavé, Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme est mis en dehors de l'Éden, conséquence du péché originel. Le paradis terrestre est fermé. Et il y a un chérubin, les chérubins et la flamme du glaive. C'est très très curieux. Ce qui prouve qu'il y aura une nostalgie la plus radicale, celle que ne dévoilent pas les psychanalystes freudiens, ce qui prouve qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Il y a une nostalgie fondamentale dans l'homme, retourner dans le paradis terrestre. Et je crois que ça, c'est très important. Et c'est dit. Un retour au paradis terrestre, un bonheur humain, une harmonie humaine. Retrouvez ça. Et Dieu dit non, on ne peut pas retourner au paradis. Il y a un autre paradis que Dieu, dans sa miséricorde et son amour, prépare pour l'homme. La femme, immaculée, Marie, c'est notre nouvel Éden. Donc il y a une promesse. Alors, je souligne tout de suite ce que j'ai déjà dit, je vais être très rapide. Il y a une sorte de dialectique dans le mal. De l'orgueil, la jalousie. Une jalousie farouche, fraternelle, religieuse. Une jalousie engendrée à travers une liturgie. Ce sont les jalousies à l'égard de la liturgie qui sont les plus terribles. C'est dit dans l'Écriture. Hein. C'est au moment où Caïn veut adorer Dieu en formant un autel, première liturgie. Et que Abel fait la même chose. Abel, il est reclus en Dieu, il ne s'occupe pas de Caïn. Quand on adore, on ne s'occupe que de Dieu. Et on est dans une réclusion à l'égard de Dieu. On est entièrement en Dieu. Et Dieu nous prend sous sa protection. Caïn louche. L'orgueil nous fait loucher. Un œil sur Dieu. Un œil sur Abel. Et la curiosité engendre la jalousie. Toujours. Maintenant, c'est l'orgueil. L'exaltation de l'intelligence. Si on n'était pas curieux, il n'y aurait pas de jalousie. Il faut bien comprendre ça. Et la jalousie est présente, hein, chacun d'entre nous. Hein. Ne disons pas, j'ai jamais été jaloux dans ma vie. Ah non, je ne sais pas ce que c'est. Alors à ce moment-là, ça prouve que vous êtes dedans. Quand le chien mord l'os, il n'aboie pas. C'est quand vous lui enlevez l'os. Pour bien comprendre la jalousie, elle est très cachée. La bête est là tapie dans l'imaginaire. C'est à l'égard des autres. On n'est pas jaloux à l'égard de Dieu, normalement. Ça peut exister. Ça peut exister. Un inspecteur d'impôts, une fois que j'avais fait de l'autostop, j'avais été pris par un inspecteur d'impôts. Il avait ses doigts. Je le voyais quand il conduisait. Et là, il disait, oh, Dieu est terriblement imposable. parce qu'il a des quantités de serviteurs. Tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ce qu'il est imposable, comme ce serait intéressant de pouvoir imposer Dieu en comptant tous ses serviteurs. Est-ce que c'est de la jalousie pour l'inspecteur d'impôts? C'est curieux, hein? Ça ne serait jamais venu à l'idée. C'est une vision particulière de Dieu. La vision de l'inspecteur d'impôts. Quand vous verrez un inspecteur d'impôts, pensez à ça, hein, et détournez la conversation. Seconde faute, donc la jalousie. Troisième faute, l'iniquité généralisée. Le péché collectif. L'iniquité généralisée. On n'a même plus de respect sur l'homme. Alors le déluge, Dieu reprend tout. Par Noé. Vous voyez, vous retrouvez toujours la victoire promise. Et même à Caïn, la victoire est promise. Même à Caïn, Dieu se fait le protecteur de Caïn. C'est extraordinaire. Parce que Dieu continue d'aimer l'homme. Et ça, c'est visible dans les 11 premiers chapitres. Puis alors, dernièrement, dernière faute, cet orgueil collectif. L'homme construit la tour de Babel. C'est très actuel, la tour de Babel. Très, très actuel. Je ne sais pas si ce n'est pas le signe du XXe siècle. Si c'est le signe du XXe siècle, on est très proche du retour du Christ. Vous n'en savez rien, et moi non plus. Mais nous savons qu'il vient bientôt. Et nous devons regarder la tactique du démon. Regardez attentivement la tour de Babel, chapitre 11. Très étonnant. On dépasse notre petite planète. On va dans la Lune. On regarde ce qui se passe dans les planètes. C'est l'orgueil collectif. Vous voyez, c'est une manière très élégante pour le démon de supprimer l'orgueil personnel. C'est pas moi. C'est le groupe des savants, des techniciens, l'économie mondiale, planétaire, ont dilué la responsabilité dans le point de vue du tout. Et alors on a un orgueil collectif de l'humanité. C'est l'humanité qui est à la conquête du monde. Qui n'a plus besoin de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'adoration collective. C'est curieux, il y a un péché collectif, il n'y a pas d'adoration collective. Il n'y a pas de liberté collective. Il y a un orgueil collectif. Mais il n'y a pas de bien collectif. Le bien est toujours personnel. Tandis qu'il y a un orgueil collectif. Le messianisme temporel collectif. L'homme qui veut se libérer de toute espèce de tyrannie et l'homme qui prétend sauver l'homme. Nous retrouvons là ce que le Saint-Père a dit quand il est venu la première fois en France, à Paris, et qu'il a dit aux évêques français à huis clos. Ça a été édité. Alors on a pu regarder. Il a une phrase extraordinaire aux évêques français. Je ne sais pas combien d'évêques français l'a répété et l'a reprise. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait l'enquête. Je ne veux pas faire l'enquête. Mais regardons le texte. l'Église vit actuellement une tentation plus grande que la première. Une méta-tentation. Ur-tentation. La tentation fondamentale, première. L'homme veut sauver l'homme. Et l'homme prétend que son sauveur, c'est l'homme. L'homme n'a plus besoin de Dieu. Il n'y a plus de place pour Dieu dans la communauté humaine. Le symbolisme de la tour de Babel, c'est l'homme qui prétend se sauver en dehors de Dieu et qui fait l'unité par lui-même. C'est l'homme qui s'unifie en dehors de l'homme, en dehors de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que c'est impressionnant. Ça m'impressionne toujours beaucoup, la tour de Babel, chapitre 11. C'est le dernier moment. Vous voyez, ces 11 premiers chapitres de la Genèse ponctuent l'histoire de l'humanité par le péché, donc par la psychologie. L'orgueil personnel qui se termine dans l'orgueil collectif. L'homme qui fait un nouveau monde, qui est l'œuvre de l'homme et qui n'est plus l'œuvre de Dieu. Et ce nouveau monde, symbolisé par la tour de Babel, l'homme n'a plus besoin de Dieu. Alors, ce que nous allons retenir, et ce sera le sujet à partir de maintenant, comment Dieu accomplit sa promesse.